VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du vendredi 18 janvier 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
L'Union africaine a demandé hier soir la suspension de la proclamation des résultats électoraux définitifs de la présidentielle du 30 décembre dernier en République démocratique du Congo.
À Bambari, en République centrafricaine, résurgence de violence hier entre miliciens et casques bleus de la MINUSCA.
Au Ghana, indignation générale après l'assassinat d'un journaliste d'investigation ayant participé à une vaste enquête sur la corruption dans le foot africain.
Au Zimbabwe, le pasteur Evan Mawarire a réfuté hier devant la justice les accusations de subversion retenues contre lui à raison de son soutien à la Fronde sociale.
Ici à Washington, une nouvelle étape a été franchie hier dans le bras de fer sur le shutdown entre le président Donald Trump et la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant. Le journal.
L'Union africaine a mis la pression sur la République démocratique du Congo en demandant jeudi soir la suspension de la proclamation des résultats électoraux définitifs. L'organisation continentale a aussi évoqué l'envoi d'une délégation de haut niveau à Kinshasa. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Réunis sur le dossier congolais jeudi à Addis Abeba, plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains ont conclu qu'il y avait des doutes sérieux sur la conformité des résultats provisoires tels qu'ils ont été proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. En conséquence, les chefs d'État et de gouvernement demandent la suspension de la proclamation des résultats définitifs des élections. Selon ces résultats proclamés le 10 janvier, l'opposant Félix Tshisekedi a remporté l'élection présidentielle, tandis que le chef de l'État sortant, Joseph Kabila, a gardé une confortable majorité à l'Assemblée nationale, au moins 350 députés sur 500. L'autre opposant, Martin Fayoulou, revendique la victoire avec 61% des voix et a saisi la Cour constitutionnelle qui doit proclamer les résultats définitifs d'ici mardi 22 janvier, date de la prestation de serment du nouveau président. Les chefs d'État et de gouvernement ont convenu d'envoyer en urgence en RDC une délégation de haut niveau comprenant le président de l'Union africaine, Paul Kagame, ainsi que d'autres chefs d'État et de gouvernement et le président de la Commission de l'Union africaine. Cette délégation devra entrer en contact avec toutes les parties prenantes congolaises dans le but de trouver un consensus sur une issue à la crise post-électorale dans le pays. La réunion a rassemblé jeudi Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, le président de la Commission Moussa Faki Mahamat, ainsi que plusieurs chefs d'État, Afrique du Sud, Zambie, Namibie, Ouganda, Rwanda, Congo, Guinée, Éthiopie et Tchad.
La ville de Bambari, dans le centre de la République centrafricaine, où sont déroulés d'intenses combats début janvier, a été le théâtre hier d'une résurgence de violence entre miliciens et casques bleus de la MINUSCA. C'est ce qu'a annoncé l'ONU jeudi soir. Des miliciens de deux groupes armés alliés, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, le FPRC et l'Union pour la paix, en Centrafrique, l'UPC se sont manifestés ce matin en tirant vers des véhicules de la MINUSCA, a déclaré hier à l'AFP Vladimir Montero, porte-parole de la mission de l'ONU dans le pays, ajoutant que les casques bleus avaient répliqué.
Le candidat de l'opposition nigériane, l'ancien vice-président Atiku Abubakar, est arrivé hier soir à Washington pour une tournée officielle en amont de la présidentielle prévue le 16 février prochain, a annoncé son équipe de campagne, mettant fin aux rumeurs selon lesquelles le multimillionnaire ne pouvait pas se rendre aux États-Unis où il est cité dans une affaire de corruption, selon ses détracteurs. « Je mets au défi toute personne, à n'importe quel moment, d'apporter une quelconque preuve de corruption contre ma personne », a déclaré M. Atiku, qui n'a jamais été visé personnellement par la justice nigériane.
Au Ghana, l'assassinat d'un journaliste d'investigation ayant participé à une vaste enquête sur la corruption dans le foot africain suscite l'indignation générale au sein de la presse locale et internationale. Elle dénonce, cette presse, les graves menaces pesant sur les médias. Précision de Jacques Aristide.
Ahmed Hussein a été abattu mercredi soir par des hommes non identifiés alors qu'il rentrait chez lui en voiture à Accra. Le journaliste de 34 ans a reçu des balles à la poitrine et au cou. Il faisait partie de l'équipe de reporters infiltrés dirigée par le célèbre journaliste Anas Arimayor, qui a fait éclater l'an dernier un scandale de corruption et de matchs truqués conduisant à de lourdes sanctions des instances internationales de football. L'Institut international de la presse, qui regroupe des éditeurs et journalistes de plus de 120 pays, de même que le Comité pour la protection des journalistes, appelle le gouvernement ghanéen à enquêter rapidement sur ce crime et à traduire les assassins en justice. Même indignation du côté de l'Association des journalistes du Ghana qui évoque un signal inquiétant indiquant que les médias sont sérieusement attaqués. Elle demande au chef de l'État, Nana Akufo-Addo, de se saisir personnellement de l'affaire.
Au Zimbabwe, le pasteur Evan Mawarire a réfuté hier devant la justice les accusations de subversion pour son soutien à la Fronde sociale qui agite le pays depuis plusieurs jours. Le point avec Raissa Girondin.
Arrêté mercredi, le pasteur Mawarire a comparu devant un tribunal de Harare. Il est accusé d'incitation à la violence via les réseaux sociaux et de subversion. « Je n'ai absolument rien fait de ce que l'on me reproche », a plaidé le porte-drapeau de la révolte de 2016 en arrivant au palais de justice. Le Zimbabwe a été le théâtre de violentes manifestations contre la hausse des prix des carburants à la pompe décrétée samedi par le gouvernement. À Harare, la capitale, et à Bulawayo, de nombreux commerces ont été pillés, des bâtiments et des voitures incendiés. Les autorités ont annoncé la mort de 3 personnes, dont un policier. Le ministre de la Sécurité, Owen Kube, a annoncé mercredi que plus de 600 personnes ont été arrêtées. Selon Dowa Mavinga de Human Rights Watch, depuis le début des troubles lundi, les gens sont cloîtrés chez eux, il n'y a pas de transport public, les écoles sont fermées et les gens manquent de nourriture.
Au Soudan, 2 personnes, un médecin et un enfant, ont été tuées hier dans des manifestations contre le régime du président Omar el-Bashir. 4 semaines après le début de la contestation déclenchée par une hausse des prix du pain et des médicaments, la police a dispersé avec des gaz lacrymogènes des centaines de manifestants qui marchaient vers la présidence à Khartoum pour demander le départ d'Omar el-Bashir, selon ses témoins.
En Libye, 10 personnes ont été tuées et 41 autres blessés, dont des femmes et des enfants, en 2 jours de combat entre milices rivales au sud de Tripoli. Le point avec Ekia Badou.
De violents combats ont eu lieu hier à une 40aine de kilomètres au sud de la capitale libyenne. La veille, des affrontements entre milices et un groupe armé appelé la 7e brigade avaient repris près de l'aéroport de Tripoli. Le ministre de la Santé, qui avait fait état de 5 morts et 20 blessés, a revu hier son bilan à la hausse à 10 morts et 41 blessés, dont des femmes et des enfants. Pourtant, la mission de l'ONU en Libye avait mis en garde mercredi contre toute violation de la trêve conclue en septembre. Entre fin août et début septembre, des combats entre les 2 camps ont fait au moins 117 morts et plus de 400 blessés. Les milices rivales s'adonnent à une lutte d'influence pour dominer la capitale et contrôler les institutions et les richesses du pays. Les principales milices de Tripoli se disent loyales au gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale. Le pays est divisé avec la présence dans l'Est d'une autorité rivale dirigée par le maréchal Khalifa Haftar.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le shutdown se complique à Washington. Le président Donald Trump a informé hier la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qu'il avait repoussé le voyage de Mme Pelosi à l'étranger en raison de la fermeture partielle du gouvernement fédéral. L'exécutif permet traditionnellement aux leaders du Congrès d'utiliser des avions militaires pour leurs déplacements. La veille, Mme Pelosi avait demandé à M. Trump de reporter son traditionnel discours sur l'état de l'Union pour les mêmes raisons, c'est-à-dire le shutdown qui dure depuis 4 semaines. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition.
Une caravane de migrants honduriens est en route vers la frontière mexicaine et les États-Unis. Partis au début de la semaine, ces migrants disent fuir la misère et la violence dans leur pays. Eric Manirakidza.
Ils sont entre 1000 et 2000 migrants du Honduras qui traversent actuellement le Guatemala. Ils veulent prendre la route de Tecunumán à la frontière avec le Mexique et point de passage habituel des colonnes de l'Exode vers le rêve américain. Certains d'entre eux disent vivre une situation désespérée pour justifier leur décision de quitter le pays. Un autre groupe d'environ 200 migrants est parti du Salvador voisin, toujours avec les États-Unis pour objectif. L'ambassadeur américain au Guatemala, Luis Arriaga, leur a conseillé de renoncer, avertissant que leur tentative d'entrer illégalement aux États-Unis est vouée à l'échec. De son côté, le gouvernement mexicain a mis en place une aire d'accueil dans l'état du Chiapas, frontalier du Guatemala. Les autorités mexicaines ont cependant prévenu qu'elles ne permettraient pas de passage à la frontière.
Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Au Sénégal, les travaux de construction de la centrale éolienne de Taïba Ndiaye dans la région de Thiès ont débuté et dureront environ 18 mois selon Ecofin. Cette infrastructure d'une capacité de 150,7 MW alimentera 150 000 ménages locaux. Elle sera construite par le français Eiffage en collaboration avec la compagnie danoise Vestas Wind. Sa production sera cédée à la Sénélec, la compagnie électrique nationale, dans le cadre d'un contrat de rachat d'électricité. L'entreprise algérienne Sonatrach et le groupe français pétrolier Total vont créer une société commune, STEP. Elle permettra de construire et d'exploiter le premier complexe de déshydrogénation du propane et de production de polypropylène d'Algérie dans la zone industrielle près d'Oran. Ce projet assurera une couverture totale des besoins du pays en polypropylène et la création de plus de 7000 emplois. Terminons avec la BAD qui estime que la croissance en Afrique a atteint 3,5% en 2018 et devrait grimper à 4% en 2019. L'Afrique de l'Est tire l'économie du continent avec plus de 5,7% en 2018 et des prévisions de plus de 5,9% en 2019. Elle est suivie de l'Afrique du Nord avec 4,3%. L'Afrique de l'Ouest est dans la moyenne avec 3,3%, tandis que l'Afrique australe est à la traîne avec 1,2%. Enfin, l'Afrique centrale devrait rebondir à partir de 2019 avec 2,2%. Les performances économiques générales du continent s'améliorent, mais elles sont insuffisantes pour réduire le chômage et la pauvreté.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le TP Mazembe affrontera le CS Constantine, 103 de ses cadres.
Oui, arrivé mercredi en Algérie, les corbeaux de Lubumbashi présenteront un visage amoindri. Déjà blessé pour le précédent match, le maestro Rainford Kalaba et le buteur Ben Malango manqueront encore à l'appel, tandis que le gardien ivoirien Sylvain Gbohou, expulsé lors de la première journée face aux Égyptiens d'Ismaili, est quant à lui suspendu. Une semaine après sa victoire 2-0, le TP Mazembe tentera d'enchaîner demain sur le terrain du CS Constantine dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupe en Ligue des Champions.
Robertson a prolongé à Liverpool.
Oui, le capitaine écossais est le dernier joueur en date de Liverpool à prolonger son contrat avec les Reds. Il a signé un nouveau bail à long terme jusqu'en 2024. Andy Robertson est devenu une des clés de voûte de l'équipe qui est actuellement en tête de la Première Ligue. Le défenseur de 24 ans a suivi les pas de Roberto Firmino, Mohamed Salah, Sadio Mané et Joe Gomez qui ont tous signé des prolongations de contrat avec Liverpool ces derniers mois.
Handball, la Tunisie et l'Égypte au second tour.
Et oui, la Tunisie et l'Égypte ont décroché leur ticket tandis que l'Angola est éliminée. Les Aigles de Carthage devaient l'emporter pour leur dernier match de groupe devant l'Autriche. Mission accomplie pour les hommes du coach Tony Girona, 32-27. Ils finissent troisième de leur poule. Dans le groupe D, c'est un duel 100% africain qui devait décider de l'un des tickets pour le tournoi principal. Et il opposait l'Égypte à l'Angola. À la fin, ce sont les pharaons qui se sont imposés 33-28. Tunisiens et Égyptiens connaîtront leurs adversaires du tour suivant ce soir.
Athlétisme, seul Africain parmi les nominés des Laureus 2019.
Il s'agit d'Eliud Kipchoge. Le Kenya a ébloui la planète en 2018 en établissant un nouveau record du monde de marathon à Berlin. Dans sa catégorie du meilleur sportif, Kipchoge s'affiche aux côtés des footballeurs Kylian Mbappé et Luka Modric, du champion de Formule 1 Lewis Hamilton, du basketteur LeBron James et du tennisman Novak Djokovic. Chez les dames, on retrouve Simone Biel, Simona Halep, Angelique Kerber, Esther Ledecka, Daniela Rift et Michaela Schifrin. Roger Federer et Serena Williams sont les lauréats en titre des Laureus. La soirée de récompense de cette année est prévue le 19 février à Monaco. NBA, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Washington a battu lors d'un match à Londres, New York, 101 à 100, Charlotte et Sacramento 114 à 95, Philadelphie et Indiana 120 à 96, Toronto et Phoenix 111 à 109, Denver et Chicago 135 à 105.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La Cour pénale internationale a suspendu mercredi soir la remise en liberté de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo après un nouvel appel déposé par le procureur au lendemain de son acquittement. Une situation que dénonce maître Marcel Sekaldi, l'un des avocats de M. Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Au micro d'Irénée Herman Ungbo, maître Marcel Sekaldi.
Dans tous les pays de droit, lorsque quelqu'un est acquitté, la personne est libre. Eh bien, voyez-vous, cette règle de droit, ce principe de droit, n'est pas appliqué à la Cour pénale internationale. C'est-à-dire que malgré la décision d'acquittement rendue par la juridiction de jugement qui a prononcé leur libération immédiate, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, Madame Bensouda, a la possibilité de maintenir ou de faire maintenir en détention la personne qui vient d'être acquittée. Je vous rappelle, pour mémoire, que Laurent Gbagbo est détenu depuis 2011, que l'enquête s'est déroulée durant 6 années. Ça signifie d'ailleurs que si l'enquête s'est déroulée 6 années, au moment où il a été arrêté et placé en détention, il n'y avait pas de preuves suffisantes pour le mettre en prison. Que le procès lui-même a duré 2 années. Vous savez, ces délais de procédure sont contraires à toutes les règles du droit pénal. Le délai raisonnable, le procès équitable. Donc la Cour pénale internationale n'est pas une juridiction, c'est une cour qui fonctionne en vertu des règles qui lui sont propres et qui constitue une violation des règles internationales couramment admises.
Quelles sont les motivations du maintien de Charles Blé Goudé et de l'ancien président Laurent Gbagbo?
Mais le maintien, c'est que le tribunal a rendu sa décision et que le parquet, qui a le temps encore, qui a la possibilité de faire appel sur le fond, a demandé que lui soit communiqué par écrit la décision rendue par les juges.
À vous entendre, est-ce à dire que le droit appliqué à la Cour pénale internationale est contraire au droit international?
Mais il est contraire au droit international. Et puis écoutez, il faut arrêter les hypocrisies. Est-ce que Mme Bensouda a enquêté sur les exactions commises par l'autre camp? Jamais. Et vous appelez ça, vous, une justice impartiale?
Est-ce que vous dénoncez ainsi une main invisible qui serait derrière les réactions de...
Oui, il y a plusieurs choses. Plusieurs choses peuvent entrer en ligne de compte. Vous savez, la première chose, d'abord, c'est l'incompétence des gens. Ça, c'est la première chose. Ça, il ne faut pas l'écarter. Les gens peuvent être parfaitement incompétents. Et plus ils sont incompétents, d'ailleurs, plus ils sont infatués de leur puissance. Mais vous pouvez avoir effectivement des influences extérieures. Je vous rappelle le rôle joué par la France dans l'éviction de Laurent Gbagbo.
Maître Sekaldi, oui. À quoi peuvent s'attendre désormais vos clients?
Moi, je pense tout simplement que la Cour d'appel les mettra en liberté. La Cour d'appel l'a fait d'ailleurs dans le dossier de Jean-Pierre Memba. Bon, bien, la Cour d'appel les mettra en liberté. La seule question qui se pose est de savoir si elle les mettra en liberté sous condition ou si elle les mettra en liberté purement et simplement, ce qui leur permettrait à ce moment-là de revenir en Côte d'Ivoire.
Joint à Paris, l'un des avocats de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, maître Marcel Sekaldi.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Burundi, 9 universités privées se sont vues refuser le droit d'enrôler de nouveaux étudiants pour cette année académique 2018-2019. La décision du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique touche des milliers d'étudiants de première année et les oblige à s'inscrire ailleurs. Les institutions touchées sont accusées de certaines insuffisances concernant notamment la qualité des enseignements, ce qu'elle nie. Michel Joseph.
L'ordonnance ministérielle interdit l'enrôlement de nouveaux étudiants dans ces 9 universités. Elle résulte d'une évaluation institutionnelle et non académique et ne concerne que certains établissements universitaires privés, ce qui suscite des inquiétudes. Gilbert Beko Ndjangwa, représentant légal d'UNILAC.
Parmi les évaluateurs des institutions d'enseignement supérieur privé, il y a des promoteurs des autres institutions supérieures. C'est-à-dire, il y a un conflit d'intérêts. Il n'y a pas moyen que l'institution, qu'ils ne veulent pas qu'elle existe, existe. Ils font tout pour bloquer les autres institutions, pour enrichir les institutions.
Les responsables des institutions dénoncent la partialité des évaluateurs. Ils dénoncent les contradictions dans le processus de prise de décision, dont l'autorisation d'enrôlement et son interdiction quelques jours après par le même ministère. Le professeur Toyi Oscar, représentant légal du NR.
La mesure a été précipitée et elle a pour conséquence, si elle n'est pas levée, de diminuer les capacités organisationnelles de nos établissements. Parce que on ne peut pas vous demander de recruter autant de personnel alors qu'on vous a interdit les enrôlements.
Toutefois, les enseignants sont à l'œuvre, la mort dans l'âme, disent-ils. Les étudiants déjà inscrits poursuivent les cours. En classe, comme dans les travaux pratiques de terrain, les cours suivent le processus normal. Les enseignants s'inquiètent, mais ne doutent pas néanmoins de la qualité de leur enseignement. Jean Bosco Bouzokoro, enseignant à l'UNR.
Nous avons des enseignements de qualité. Il y a beaucoup d'enseignants de grande formation académique. Alors cette mesure vraiment nous a étonnés et nous a fâchés.
Bien que les cours se poursuivent dans les secondes et troisièmes années, les inscriptions sont suspendues. Inquiets, les étudiants songent aux générations futures et à l'avenir de leurs universités. Fiston Aïmana, étudiant à l'UNR.
D'ici 3 ans, l'université ne sera plus parmi les autres universités. Donc c'est la fermeture, mais qui est fait progressivement. Parce qu'on ne sait pas si aussi l'année prochaine, on va leur permettre de reprendre l'inscription des autres étudiants.
L'interdiction d'enrôlement de nouveaux étudiants est inopportune et devrait être levée, selon les responsables des universités concernées. Ils comptent enclencher un processus de dialogue avec le ministère de l'Enseignement supérieur.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Bénin, les femmes victimes de fistules obstétricales font toujours face à l'abandon et au rejet social. Elles sont condamnées à vivre à l'écart. Reportage de Ginette Fleur Adandé, correspondante de VOA Afrique à Cotonou.
Les fistules obstétricales au Bénin restent encore un sujet difficile à aborder. Nawarata, 30 ans et aimée de 4 enfants. Victime de fistules obstétricales, elle a été bannie de sa communauté.
Tout a commencé après des complications liées à ma grossesse. Pendant 3 jours, j'ai saigné sans pouvoir me rendre à l'hôpital faute de moyens. Suite à cela, j'ai commencé par ressentir des douleurs au niveau de la colonne et par perdre le contrôle total de mon urine. C'était vraiment pénible, très difficile à vivre.
Au centre de santé de Saint-Méré, à environ 500 km de Cotonou, on y rencontre beaucoup de fistuleuses. C'est le cas de Hadidjat, 47 ans, guérie depuis plus de 5 ans, mais qui refuse de réintégrer la communauté qui l'a rejetée.
Pendant mes 12 ans de maladie, j'ai terriblement maigri. Je n'arrivais pas à manger régulièrement. À peine je mangeais que les selles risquaient de s'échapper. J'étais en permanence en couche. Je ne pouvais me présenter dans les grandes assemblées de peur de sentir mauvais et de révéler au grand jour ma maladie. C'est arrivé au point où j'ai envisagé de me suicider.
Il n'y a pas de chiffres fiables sur le nombre de femmes béninoises atteintes de fistules obstétricales. Gisèle Badito est médecin. Elle estime que le coût exorbitant des interventions chirurgicales pousse beaucoup de femmes à ne pas se faire connaître. Une réalité qui en rajoute à la stigmatisation.
C'est pas une maladie qui est déclarée. La prise en charge de cette fissure obstétricale, c'est
très difficile et c'est pas une opération qui permet nécessairement d'arriver à bout. Il faut peut-être 3 à 4 opérations. Avec le coût de cet acte-là, les femmes sont réticentes.
Tongueta, ville située au nord du Bénin, abrite un campement tenu par les religieux et qui accueille les femmes victimes de la fistule obstétricale. Sœur Thérèse Kelendibo explique ici les conditions ayant poussé à la création du campement.
Les malades n'arrivent pas à se déplacer pour venir au centre, surtout si ce sont des interventions chirurgicales. Ça nécessite que ces malades soient auprès de l'hôpital. Donc ceux qui viennent, n'ayant pas grand moyen, préfèrent rester sous les manguiers.
Au Bénin, même si des facteurs cliniques favorisent les fistules obstétricales, il y a des causes qui, selon Dr Mbonou, méritent sensibilisation.
Il faut que le bassin de la femme soit mature. Mais si on envoie une petite fille de 15 ans et en mariage précoce, au cours de l'accouchement, il y aura des problèmes. En dehors de ça, il y a les pratiques traditionnelles. Dans les zones reculées, rares sont les femmes qui sont autorisées, même si tu as les propres moyens, de te rendre à l'hôpital sans l'autorisation de ton mari.
L'urgence aujourd'hui reste la sensibilisation, mais aussi la promptitude du gouvernement à prendre à bras le corps ce drame social qui peut être inscrit au rang des stigmatisations dont sont victimes les femmes. De Cotonou, Jeanette Fleur Adamé pour VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons du VIH-Sida et du mariage.
De plus en plus, le test du Sida fait partie des examens prénuptiaux exigés par les partenaires. Dans certains cas, la séropositivité d'un des partenaires met un terme au projet de mariage.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Philippe Kyunyu, médecin en RDC. Il nous dira s'il est possible de vivre une sexualité normale quand l'un ou les deux partenaires sont séropositifs.
Nous écouterons le témoignage de Joël, un séropositif marié à une femme séronégative. Nous avons aussi recueilli les avis de quelques auditeurs.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Ici aux États-Unis, le shutdown vire au règlement de compte. La Maison-Blanche a empêché hier la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, d'utiliser un avion militaire pour ses déplacements à Bruxelles, en Égypte et en Afghanistan. Et ce, après que Mme Pelosi a demandé la veille au président Donald Trump de reporter son traditionnel discours sur l'état de l'Union prévu le 29 janvier. Pour un commentaire, Eric Manirakiza a joint ici à Washington le professeur Emilio Viano d'American University.
Vraiment, c'est un changement de l'atmosphère, de la relation entre le président et Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des députés. On peut bien penser à ce qu'a dit le sénateur républicain Lindsey Graham. Il a qualifié d'irresponsable la réponse de M. Trump, également inappropriée, en réponse à la lettre de Mme Pelosi qui reportait le discours du président sur l'état de l'Union dans une autre date que le 29 janvier. C'est vraiment une situation très difficile maintenant parce qu'on peut voir que cette partie d'échec entre Donald Trump et Nancy Pelosi s'est transformée en une partie de dames.
Justement, il y a des conséquences graves sur l'économie et sur les familles et les agents fédéraux, mais politiquement, est-ce le président Trump qui va en sortir gagnant ou les démocrates?
Il semble qu'il aime ce type de confrontation, une confrontation frontale et directe. Les démocrates sont un adversaire tout trouvé, mais naturellement, le danger, c'est de jouer trop avec le feu de la part de Trump ou de la part des démocrates. Oui, Trump aime les oppositions frontales et directes, mais il pourrait naturellement commencer encore plus sa descente dans l'opinion populaire, qu'il semble que jusqu'à maintenant, en majorité, donne la responsabilité de cette situation au président et pas encore aux démocrates. C'est un jeu maintenant, un jeu très personnel, irresponsable, inapproprié, qui baisse le respect dans le pays et naturellement à l'étranger, pour la présidence des États-Unis particulièrement, mais aussi pour l'image des États-Unis comme un pays vraiment démocratique qui veut enseigner au monde comment on gouverne bien, comment on peut avoir une démocratie qui est en faveur du peuple. C'est-à-dire que c'est une perte d'image, de prestige pour le pays.
cette impasse budgétaire va continuer jusqu'à quand?
Nous avons déjà dit que s'il y a 800 000 personnes qui n'ont pas d'argent à dépenser, il y a bien des restaurants, des cinémas, des agences de voyage, des lignes aériennes, etc., etc., qui n'ont pas de clients. Et ils commencent à perdre de l'argent dans une façon assez dramatique.
Joint ici à Washington, Emilio Viano, professeur à American University. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.